mais il y a aussi beaucoup de potentiel d'accueil. Et nous essayons, dans une région comme ici, qui est très frappée par des conflits oubliés, qui reçoivent très peu de financement pour l'aide humanitaire, nous essayons de soutenir plutôt ça que de mettre les gens dans les camps où ils vont dépendre pour toujours et entièrement de l'aide humanitaire. Donc on essaie de soutenir un système où les gens, dans le maximum, ils ont accès aux services. Comme la dame, elle a dit, elle a pu, avec un appui, envoyer ses enfants à l'école et elle a bénéficié d'un soutien pour des activités génératrices de revenus. Donc ça, c'est un bon exemple, effectivement.
D'accord. Alors, Fidel, comment faire pour vraiment aider ces réfugiés à avoir le sentiment d'être, de faire partie de cette communauté?
Merci, Adou. La première réponse à de telles urgences, qu'on appelle des urgences humanitaires, notamment la situation des réfugiés, c'est d'abord les aider à être intégrés, en amenant la communauté des réfugiés ensemble avec les familles d'accueil. Et spécifiquement, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est d'essayer de faire comprendre les deux côtés. Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un arrive dans leur milieu?
Dans leur milieu, ouais.
Pour se faire accepter. Il y a d'abord le problème d'acceptation. Parce que comme la dame l'a dit, il y a une réjection. Elle est burundaise.
Elle est une voisine.
Elle est voisine. Donc, mais parce qu'elle a traversé, elle vient dans un autre pays, dans un territoire qui est déjà... Il y a un surplus des réfugiés. La capacité d'accueil des Goma n'est plus là.
Tout à fait. Alors justement, Andreas, la RDC, les conflits internes ont poussé un nombre record de personnes à fuir. Et la République démocratique du Congo en est le parfait exemple. Mais c'est aussi un pays d'accueil pour des réfugiés en provenance de pays voisins. Et pour vous, en tant que HCR, l'urgence, elle est où?
Bon, c'est une situation extrêmement complexe parce qu'on a... Comme vous dites, les déplacements internes, il y a des conflits dans des parties du pays. Il y a des réfugiés de l'extérieur qui sont des pays en guerre souvent, qui sont en RDC. Et puis, il y a aussi des réfugiés congolais à l'extérieur. Donc, nous, on essaye de soutenir un système aussi avec les autorités qui fournit la protection aux gens. Et après, on essaye aussi dans la mesure du possible, répondre à ces urgences-là dans ces vastes pays.
Est-ce que ce sont les déplacés internes ou ce sont les réfugiés en provenance d'autres pays de la région ou c'est les deux à la fois? Est-ce que vous avez les capacités de faire tout ça à la fois?
Il y a un problème de capacité, effectivement. On ne peut pas répondre à tout, on doit être réaliste. Mais juste pour donner un exemple, la province d'Ituri, ça c'est dans le nord-est de la RDC, elle touche le Sud-Soudan et l'Ouganda. Dernièrement, on a vu des réfugiés sud-soudanais qui arrivent dans cette province et quelques kilomètres plus bas, dans la même province, il y a des conflits, il y a des déplacements internes. Donc il y a les deux à la fois, pas toujours dans la même zone, mais parfois aussi ça peut se recouper et là ça devient vraiment, vraiment compliqué.
Merci Andreas. Alors Fidel, la RDC, comme on le disait tout à l'heure, est un pays d'accueil, c'est un pays de départ de réfugiés. L'instabilité dans la région, c'est un vrai problème.
Oui, c'est sérieux. Parce que, comme on a vu, la dame là est burundaise. Au Burundi, il y a des conflits. Mais ce qui est curieux quand tu es dans cette zone-là, parce que j'y ai été, il y a des réfugiés congolais qui trouvent leur sécurité au Burundi. Donc c'est comme une passation... un échange de réfugiés. Il y a des réfugiés burundais au Congo, il y a des réfugiés congolais au Burundi. Mais ceux qui sont au Congo, il y a une situation d'amalgame parce que vous avez les déplacés internes avec les réfugiés. Et comme l'a dit Kishof, le ACR est débordé financièrement, ils n'ont pas la capacité de répondre, et puis sur le plan d'accueil, il n'y a presque plus d'espace, parce que l'espace de Goma est restreint, c'est petit.
D'accord, c'est une situation effectivement très complexe et nos téléspectateurs ont réagi sur notre page Facebook et on démarre par Marie-Jeanne Abega. Et pour elle, il faut enrayer le mal à la racine. Les conditions d'accueil ne peuvent pas offrir le confort que l'on aimerait avoir. Chez nous, je crois qu'elle parle du Cameroun, il y a des camps de réfugiés dans des régions où le flux est important. Le gouvernement, la société civile, les organisations internationales font le nécessaire, mais la main reste tendue. Mamadou Lamaranba, ici à New York, dit « Triste réalité, les conditions de vie dans lesquelles sont confrontés les réfugiés. Il faut s'attaquer à la cause de ces déplacements forcés pour mettre un terme à ce phénomène terrible. » Et enfin, Hassan Omar pense que pour résoudre le problème de réfugiés, il faut trouver des solutions aux problèmes politiques, ethniques et aux catastrophes naturelles. L'humanisme doit primer sur les intérêts politiques et personnels et surtout, la paix doit être au mot d'ordre dans le monde. Alors, donc, on l'a vu, Fidèle Oumeya, nos téléspectateurs pensent qu'il faut s'attaquer à la source du problème, qui est l'instabilité politique, les conflits.
Ça, c'est vrai. Recevoir les réfugiés, c'est les symptômes. La maladie, il faut la chercher en bas. C'est ça, les grandes questions de réconciliation et les questions de bonne gouvernance politique surtout. Et ça, si nous voulons résoudre le problème des réfugiés, il faut s'attaquer à la bonne gouvernance en dessous, qui est la racine, et il faut aussi commencer à mettre les ethnies ensemble pour qu'ils puissent avoir, elles puissent avoir des dialogues entre elles.
D'accord. Alors, Andreas Christophe, il y a ceux qui sont dans des camps et d'autres qui sont dans des communautés, des pays d'accueil. Si on peut évoquer le cas de l'Ouganda qui est considéré par beaucoup comme un exemple de réussite. Quels sont les programmes qui sont disponibles pour faciliter l'intégration de ces réfugiés et créer des activités lucratives?
Bon, le premier pas est déjà de ne pas mettre des réfugiés dans des camps fermés, comme on a vu dans d'autres pays. L'Ouganda est certainement un modèle dans cela, mais même un pays comme la RDC, qui a beaucoup ses propres problèmes, a par exemple une législation assez progressive. Ça veut dire que les réfugiés, ils ont le droit de libre circulation et ils ont aussi le droit de travailler. Donc pareil en Ouganda. En Ouganda, il y a aussi des partenaires de développement qui se sont mobilisés pour vraiment intervenir dans des zones qui accueillent les réfugiés, mais pour tout le monde dans une certaine mesure. Donc renforcer les zones qui sont très affectées par les réfugiés.
Est-ce qu'ils ont par exemple l'accès à la terre? Est-ce que c'est facile d'accéder à la terre? Parce qu'on parle souvent de l'Ouganda. Est-ce que c'est le cas?
Moi je suis en RDC, donc sur l'Ouganda, je sais qu'il y a de l'accès à la terre, mais après, il faut toujours différencier aussi est-ce que vous êtes après le propriétaire de la terre, certainement pas dans la plupart des cas. Pour la RDC, c'est différent. Comme a été mentionné, par exemple au Nord Kivu, c'est plus difficile, mais dans d'autres parties du pays, il y a des réfugiés sud-soudanais ou les centrafricains, par exemple en RDC, il y a beaucoup d'espace. Donc ce qu'on fait, on négocie avec les autorités locales pour assurer que des réfugiés ont accès à la terre, ils peuvent cultiver. Donc il y a beaucoup d'ouverture souvent pour cela et ça stimule parfois toute une économie locale qui après un marché, il y a des produits qui sont vendus. Donc il y a du potentiel dans cette direction certainement.
Voilà, donc en fait, Fidèle, les institutions comme l'HCR sont là, mais les États, ils font quoi? Les États doivent être au centre de la réponse à apporter face à cette crise.
Oui, les États africains ont une lourde responsabilité dans la question des réfugiés, surtout africains. Dans ce sens que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont été ceux qui ont créé la crise des réfugiés pour être au pouvoir. Et quand ils sont au pouvoir, Ils oublient la question des réfugiés. On attend que quelqu'un d'autre vienne les déposer au pouvoir, du pouvoir, reprend la même trajectoire en créant une guerre pour accéder au pouvoir, crée encore une seconde vague de réfugiés. Donc les États africains n'ont pas du tout fait des efforts pour mettre en place des systèmes d'accession au pouvoir, parce qu'au fait, le problème, c'est l'accession au pouvoir. Quand on refuse le schéma des élections et on tourne à droite ou à gauche pour accéder au pouvoir par les rébellions, on crée les réfugiés. Donc nous devons rester sur ce que la Constitution a dit et puis suivre cette voie-là et nous arrêtons le flot des réfugiés.
Et les Grands Lacs sont un véritable problème en termes de crise politique, justement.
Oh oui, oui. Le Grand Lac produit beaucoup de réfugiés au monde et ne sait pas comment résoudre cela, parce que c'est comme si cette situation des réfugiés n'est pas même dans les soucis, dans le calendrier du président. Quand ils viennent pour les 100 jours, dans les 100 jours, il n'y a pas une question, ce n'est pas une urgence. Que dans les 100 jours, je règle la question des réfugiés, ils rentrent chez eux. C'est comme ça que les ICR intervient avec des solutions qui ne sont pas durables. Quand on doit dire, écoutez, nous donnons de la terre à des réfugiés de X pays au Congo, vous renforcez les conflits fonciers qui existent déjà dans ces pays-là. Oui. Ça, ce n'est pas une solution.
Tout à fait. Alors, le débat sur la situation des réfugiés en Afrique continue et ce sera juste après cette courte pause. Pour la seconde partie de Washington Forum, Abdourahman Dia, toujours en votre compagnie. Je rappelle nos invités. De Kinshasa, nous avons Andreas Kirchhoff, porte-parole du HCR en RDC. Et avec moi ici en studio, nous avons Fidel Lumea, écrivain et analyste politique. Merci d'être avec nous pour ce débat. Mais avant de les retrouver, faisons un tour au Burkina Faso. Un pays qui subit depuis 2015 des attaques terroristes et des violences intercommunautaires. Son voisin, le Mali, souffre également de ces mêmes fléaux qui ont occasionné un mouvement massif de population. Je vous propose de suivre le témoignage de Mouloud Ag Afizou qui a fui le Nord Mali pour le Burkina Faso.
Je voulais voir mes enfants étudier être des fonctionnaires ou bien des grands commerçants ou bien avoir quelque chose d'activité. Je ne vais pas voir mes enfants un jour devenir des réfugiés comme maintenant.
Témoignage d'un réfugié malien au Burkina Faso. Alors, Andreas, ce réfugié malien évoque un problème qu'on peut retrouver partout. Il s'agit de l'accès aux services de santé, hein, même s'il dit qu'il est bien pris en charge. Mais de façon générale, comment s'organise cette prise en charge de services sociaux comme la santé, par exemple?
Ça peut être un grand problème pour les réfugiés, surtout s'ils ont... Bon, il faut distinguer, il y a des réfugiés qui ont des moyens, mais d'autres, ils n'ont pas. Il y a des réfugiés qui trouvent un travail, d'autres ne trouvent pas. Et pour ces derniers, c'est particulièrement difficile. Donc, dans ces cas, ils vont dépendre de l'aide humanitaire ou ils épuisent tout leur possession et ça devient vraiment très difficile. L'approche qu'on essaye de soutenir et de donner, renforcer les structures de santé dans certaines zones et donner parfois l'accès gratuit aux soins pour les réfugiés et pour certains membres de la communauté hôte.
Est-ce qu'il y a des programmes qui sont plus financés que d'autres? J'ai l'impression que certains peut-être attirent plus d'attention que d'autres. Est-ce que c'est le cas?
C'est définitivement un grand problème dans l'aide humanitaire au niveau mondial. Nous, comme organisation des Nations Unies, on essaie de contrebalancer dans une certaine mesure en faisant des programmes, pas des projets, et mettant tous les fonds qui n'ont pas de spécifications dans les programmes sous-financés. Mais généralement, c'est un problème. Et surtout cette région ici, on se trouve vraiment dans une région avec plusieurs crises en parallèle, Sud-Soudan, Centrafrique, les Congos lui-même. Donc ça attire très peu d'attention dans les pays riches et les pays donateurs.
D'accord. Alors Fidel Lumea, quand on parle de réfugiés, vous êtes ici aux États-Unis, mais quand on parle de réfugiés, beaucoup pensent aux pays occidentaux qui porteraient le plus lourd fardeau, alors que 80% des réfugiés sont en fait dans des pays voisins, donc forcément dans des pays pauvres.
Oui. La raison, c'est le média. Quand la Voix de l'Amérique et puis les grandes chaînes ne font que répéter ce qui n'est pas vrai, on finit par y croire.
Or, ils mettent beaucoup l'accent sur les crises en Afrique,
oui,
à la Voix de l'Amérique.
Oui, oui. Et ça donne l'impression comme si ce sont les réfugiés africains quittent l'Afrique pour les États-Unis ou pour l'Europe, et ça devient un rêve de tout le monde, alors que le plus grand nombre de réfugiés se retrouvent à l'intérieur du continent. Donc ceux qui sortent seulement à un petit pourcentage, mais le grand pourcentage reste sur le continent et ça pèse lourd sur le budget des continents, des pays africains.
D'accord. Alors Andreas, par exemple, des Maliens qui quittent le Burkina ou vice-versa, donc on voit que la RDC, par exemple l'Ouganda, accueille beaucoup de réfugiés ou font face à des mouvements de population. Comment est-ce que le HCR fait face à tout cela? Si je prends par exemple l'exemple des Grands Lacs.
Bon, on essaie de faire ce qu'on peut, mais bien sûr, il y a, comme je disais, dans des régions sous-financées, il y a des limites financières. Et ce que monsieur a dit tout à l'heure, c'est tout à fait vrai que la plupart des réfugiés sont dans les zones d'origine. Donc 80% des réfugiés, ça on a juste vu dans notre nouveau rapport des tendances globales qu'on vient de publier hier. 80% des réfugiés sont à côté de leur pays d'origine.
Tout à fait. Donc, un véritable défi pour ces pays qui sont des pays pauvres. Et malgré ces difficultés, le rêve est toujours là pour ces jeunes. Hein, surtout, plus de la moitié des réfugiés sont en fait des jeunes de moins de 18 ans. Alors, dites-nous un peu, que fait le HCR pour faire face justement aux défis de cette jeunesse qui se trouve dans les camps de réfugiés ou en tout cas obligée de fuir son pays?
Bon, d'abord, si je peux dire, de cette région ici, des Grands Lacs, on ne voit pas des énormes mouvements vers les pays plus riches, vers les pays occidentaux, par exemple. Mais le problème que vous évoquez est tout à fait là. Les jeunes, c'est... Il me semble toujours, quand je parle avec des jeunes dans les camps de réfugiés, c'est parmi ceux qui ont le plus de problèmes, parce que peut-être ils étaient à l'école secondaire, ils n'ont plus d'accès, ou même à l'université, et ils se retrouvent dans un endroit rural avec rien à faire. Donc, il y a beaucoup qu'on doit faire, mais relativement peu qu'on peut faire souvent. Des programmes, donc petits programmes d'éducation, y compris secondaire. On a commencé l'année dernière ici en RDC, dans plusieurs endroits, des activités de formation professionnelle à une certaine échelle. Ou encore, on a reçu un financement du Comité international olympique pour des programmes de sport, juste pour créer des aires de sport dans les sites ou les camps des réfugiés et faire des activités ensemble avec eux qui servent aussi à la sensibilisation sur certaines questions.
D'accord. Alors, Fidel, pour réduire le nombre de réfugiés, il faut résoudre les crises politiques.
Oui, ça c'est la solution à court et long terme. Je voulais ajouter sur un aspect très très important sur ce que Andreas venait de dire. Il y a ce qu'on oublie ici, c'est l'aspect qu'on appelle psychogénéalogique. C'est-à-dire quoi? L'histoire africaine n'est pas écrite, elle est véhiculée de bouche à oreille. Quand les gens se déplacent de leur pays avec leurs enfants, ils ne transmettent plus cette histoire-là du clan, de l'ethnie, comment nous sommes arrivés dans ces pays. Cette histoire est morte entre les deux pays. Donc il y a une génération qui vient, qui ne connaît plus son histoire. Et ça, c'est terrible. C'est là où ma recommandation pour les amis de HCR et tout le monde, c'est que dans ces programmes, le football, c'est bien beau, mais le mental, il y a les traumas. Comment est-ce que nous réglons la question des traumas? Comment est-ce que ces jeunes dans le camp doivent grandir avec leur histoire, d'où ils sont venus, elles sont venues, et où sont... Pourquoi ils sont arrivés là-bas? Il doit y avoir une continuité de l'histoire du clan. Sinon, d'accord, l'Afrique est perdue, parce que d'accord, son histoire est perdue et n'est plus transférée à l'autre génération, parce que cette génération d'accord, est dans
alors,
le camp.
On va passer à Andreas Kirchhoff rapidement. On est aux États-Unis, donc on est obligé de parler de la question de la réimplantation, qui est une question importante pour beaucoup de réfugiés, qui ont pour objectif, il faut le dire, de se retrouver dans un pays occidental à cause des difficultés qu'ils vivent dans leur pays d'accueil. Est-ce que c'est quelque chose de facile, la réinstallation dans un pays occidental?
En général, je ne le crois pas, parce que on parle des solutions durables. On connaît trois solutions. Et malheureusement, même un très grand nombre de réfugiés n'a pas accès à ces solutions. Ah. Première est le rapatriement volontaire. Ça, c'est le plus grand nombre des gens.
Voilà. Malheureusement, on va demander à tous ceux qui sont intéressés de visiter votre site internet. On en arrive pratiquement à la fin de ce débat. Merci à tous nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. Vous pouvez nous retrouver donc sur notre site internet voafrique.com et bien sûr, restez connectés sur notre page Facebook. Clin d'œil à nos partenaires sur le continent comme Évasion TV en Guinée et B1 en République démocratique du Congo. C'était Abdourahmane Dia, la présentation. Excellente suite des programmes.